4 aujourd'hui. On est arrivé au chapitre 4. Dans tout ce chapitre, l'apôtre Paul parle de l'attitude du serviteur que doit avoir le serviteur de Jésus-Christ. Donc c'est très instructif. On a dit que cette lettre est une lettre personnelle, hein, que Paul écrit à Timothée. Mais en même temps, elle s'adresse à l'église d'Éphèse, puisqu'il est responsable de l'église d'Éphèse. Et donc nous voulons considérer les quelques versets du chapitre 4. Nous allons pas tout lire, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 6. Verset 1 jusqu'au verset 6. Donc 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu que qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Voilà, jusque-là, la parole de Dieu. Donc si nous regardons bien ce passage, l'apôtre Paul parle d'une chose en particulier ici. Et donc il avait parlé, rappelez-vous, que l'Église, chapitre 3, verset 15, est la colonne et l'appui de la vérité. On avait dit qu'il expose dans le verset 16 du chapitre 3 ce que c'est que cette vérité, hein, le mystère de la piété qui est grand, Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et puis ici, il dit quelque chose de particulier. Je crois que le cœur de ce qu'il dit ici, vous devez le voir, vous pouvez le voir aussi au verset 1. Il parle de l'abandon de la foi. Il dit ici, l'Esprit dit expressément, donc c'est tellement par rapport à cette vérité-là, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, hein, le fait d'abandonner la foi, de se détourner de la foi. Alors, je crois que Paul attire ici l'attention de Timothée sur une réalité. Bien sûr, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit porter bien haut la vérité. Mais au sein de l'Église même, il dit que bien quelques-uns abandonneront la foi. Ici, vont se détourner de la foi. Donc, il soutient premièrement, je crois, c'est la réalité de l'apostasie. Il attire l'attention de Timothée sur cette réalité. Il dit pas que tous abandonneront la foi, mais il dit que quelques-uns. Hein. Donc, cela concerne quelques-uns. Et l'abandon dont il est question ici, c'est le fait de se détourner délibérément de la doctrine, de la foi, de la doctrine de l'Évangile. La foi, c'est pas juste le fait de « je crois en Jésus », mais c'est l'ensemble de la doctrine de l'Évangile, hein, la doctrine de l'Écriture. Et il dit que quelques-uns vont délibérément, par choix, de manière volontaire, se détourner de la vérité pour s'attacher, parce que c'est toujours comme ça que l'on fait, on se détourne. La conversion, rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, consiste à se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et ici, on voit que l'apostasie consiste à se détourner de la foi de l'Évangile pour s'attacher à autre chose, s'attacher au mensonge, ici. Ce qu'il décrit ici, c'est que il y en a qui se sont, on pourrait dire, approchés, qui ont embrassé, on pourrait dire, la doctrine de la foi, et qui, maintenant, s'en détournent. Et Jésus, par exemple, utilise ce mot qui est traduit par « abandon », quand il parle de la parabole des terrains, en Luc particulièrement, il dit « ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, donc la semence qui tombe sur le roc, hein, avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient, le verbe croire, hein, pour un temps, et ils succombent. C'est ça le mot qui est utilisé par détournement de la foi ici. Ils succombent au moment de la tentation. Donc quand ça semble aller bien, il semble avoir une réalité, et puis quand les difficultés arrivent, eh bien ces personnes se détournent de la foi. Darby traduit comme ça le passage, hein, il dit « au temps de la tentation », le passage de Luc, « au temps de la tentation, ils se retirent ». Donc là on a bien le sens vraiment de se retirer de quelque chose dans lequel on était pour aller vers quelque chose d'autre. Donc l'Écriture contient plusieurs exemples d'apostasie. C'est une réalité donc dans laquelle Paul met devant l'Église, mais il contient plusieurs exemples. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns d'apostats? Démas, très bien. Donc Démas, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 10, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Très bien. Ça, c'est un cas que l'on a. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels on peut penser? Ah oui, Alexandre. Alexandre le forgeron, l'apôtre Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Mais on ne sait pas s'il était croyant, enfin, s'il était croyant, s'il avait embrassé l'évangile. Mais c'est vrai qu'il y a Alexandre, dans l'apôtre Paul dit, Démas, voilà, qu'on a dit. Je pensais à Judas aussi. Judas, hein, qui a suivi, hein, il a même fait des miracles aussi, hein, avec les douze, et qui, et appelé le fils de perdition, qui s'est bien sûr détourné. Et puis probablement Hyménée et Alexandre, dans 1 Timothée 1, versets 18 à 20, l'apôtre Paul parle d'Hyménée et Alexandre qu'il a livré à Satan pour les apprendre à ne pas blasphémer. Et un petit peu avant, il parle vraiment du fait de se détourner. Donc on pense qu'ils se sont aussi détournés de la foi. Donc il y a des exemples comme cela d'apostats dans l'Écriture. Mais l'Écriture donc affirme aussi la réalité de l'apostasie. C'est pas simplement qu'il y a quelques exemples épars. L'Écriture souligne que le fait d'abandonner la foi est une réalité à laquelle il faut penser. C'est quelque chose qui arrivera, d'accord, qu'elle prédit qui arrivera. Donc l'apôtre Paul dit dans le passage qu'on a lu, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ici, donc c'est l'Esprit de Dieu qui dit cela. Alors, est-ce que ce que l'apôtre Paul dit ici, il parle d'une révélation que lui, il a eue, ça pourrait, hein, de la part de l'Esprit, qui lui dit que dans les derniers temps, les hommes abandonneront, quelques-uns abandonneront la foi, ou bien est-ce que Paul parle peut-être de prophètes? Vous savez, dans l'Église primitive, il y avait des prophètes, hein, vous vous rappelez de cela, il y avait le don de prophétie. Rappelez-vous par exemple Agabus, vous rappelez d'Agabus dans les livres des Actes, qui avait prédit qu'il y aurait une famine, d'accord? Il y a des choses comme ça, donc il y avait des prophéties dans le sens de prédire ce qui allait arriver, que certains hommes pouvaient avoir dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, on pourrait penser, comme l'apôtre Paul parle en 1 Corinthiens, qu'il y a des dons du parler en langue, le don de prophétie, que peut-être ici, ce que Paul dit, ce serait quelque chose qui est reçu par un prophète. Mais aussi, je crois qu'on peut penser, c'est peut-être ça le sens le plus juste, c'est que il fait simplement référence à ce que l'Écriture dit, hein, globalement. Parce que souvent, quand l'Écriture, surtout l'Ancien Testament, quand les auteurs du Nouveau Testament parle de l'Ancien Testament, ils disent que c'est l'Esprit qui dit cela. Par exemple, hein, en Actes 1, verset 16, lorsque Pierre prêche à la Pentecôte, et puis que tous ces hommes sont là, ils sont assemblés, ces hommes et ces femmes, et puis qu'ils disent, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu le grand bruit, le vent, et puis ils voient tous ces apôtres qui parlent dans la langue maternelle. Ils se posent la question, que veut dire ceci? Et Pierre prend la parole, vous vous rappelez, il prêche en araméen ce jour-là, et il dit ceci, il dit, « Homme frère, il fallait que s'accomplit ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. » Et puis il dit, « Par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont... Non, pardon, ça, c'était pas dans à la Pentecôte, ça, c'était juste avant, excusez-moi. Ça, c'est dans acte 1, ça, ici. La Pentecôte, c'est acte 2. Hein. C'est juste dans acte 1, quand il parle de Judas, pardon. Il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Donc, vous voyez ici, il parle de quelque chose que David a dit dans l'Ancien Testament, et il dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a annoncé d'avance. Okay. Donc, on pourrait penser que l'apôtre Paul parle dans le même sens quand il dit, l'Esprit dit expressément, c'est-à-dire qu'il rassemble un peu ce que l'Ancien Testament dit et l'attribue au Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément une révélation nouvelle concernant spécifiquement l'apostasie à la fin des temps, ici. Voilà ce que donc dit ici Pierre. On pourrait trouver d'autres endroits dans l'Écriture où il dit l'Esprit, dans le Nouveau Testament, où on parle de l'Esprit qui parle, et c'est des textes de l'Ancien Testament. Donc il dit cela, et puis ensuite il dit que cela arrivera dans les derniers temps. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura donc de l'apostasie. Donc les derniers temps indiquent une période qui est inaugurée à partir de la... On pourrait dire la venue de Jésus-Christ et puis l'effusion du Saint-Esprit, la résurrection de Christ et l'effusion du Saint-Esprit. Il y a une ère qui commence là et qui va jusqu'au retour de Jésus-Christ, que l'on appelle en général les derniers temps. Une période qui est inaugurée donc dans cette, on pourrait dire entre les deux venues de Jésus-Christ. Par exemple, acte 2, verset 16 et 17, c'est là qu'est acte 2, l'apôtre Pierre, parle à la Pentecôte, et il dit, mais ceci, pour répondre à la question sur la venue du Saint-Esprit, sur ce qui se passait ce jour-là, il dit, mais c'est ici ce qui a été écrit de la part par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et donc, on comprend que les derniers jours, c'est une période qui commence, qui est inaugurée avec l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres et puis aussi sur tous les premiers chrétiens de l'époque. Et qui va jusqu'au retour de Jésus-Christ, à la consommation de toutes choses. L'Épître aux Hébreux soutient cela aussi. Il dit, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et donc, quand Christ a été manifesté, c'est ainsi que Dieu nous a parlé par le Fils. Il parlait auparavant par les prophètes, d'accord ? Et puis, et là maintenant, quand Christ a été manifesté, c'est incarné, donc il a parlé par le Fils. Et donc, on voit bien que ces derniers temps sont inaugurés là. Donc, on pense généralement ces derniers temps comme la période vraiment qui sépare les deux venues de Christ ici. Et donc l'apôtre Paul, quand il parle des apostats ici, il en parle au temps présent. Il dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, mais il donne un peu plus bas, verset 3, il dit ils prescrivent de ne pas se marier, etc. Ils disent des choses qu'ils sont en train de faire. Donc quelque part, on voit que il considère que ce dernier temps, il y a un aspect futur, mais il y a aussi un aspect présent, il y est déjà. Ne serait-ce que par la manière dont il décrit, avec laquelle il décrit les actes des apostats. Donc, ce que l'Esprit dit expressément dans les derniers temps est ce que nous trouvons annoncé dans l'Écriture, on pourrait dire, hein, tout simplement. Et Jésus parle dans l'Écriture de l'apostasie. Matthieu 24, verset 12, il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Donc Jésus déjà parle de l'apostasie, il l'annonce, et puis il y a beaucoup d'autres passages, par exemple 2 Thessaloniciens 2 verset 3, l'apôtre Paul dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition ». Et puis pour rester dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est exactement ce qu'il dit dans le chapitre 4 de la première épître que nous avons lu ici. Et quelques-uns abandonneront la foi, se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et ici, au deuxième lettre, il dit, ils se détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'Écriture, on pourrait lire encore beaucoup d'autres passages comme cela, où l'Écriture annonce la réalité de l'apostasie, le fait de se détourner de la foi. Et on a des exemples, pour avoir des exemples de personnes aussi qui se sont détournées de la foi. Alors, bien sûr, ce que l'on croit, c'est que ceux qui se détournent de la foi véritablement n'ont pas réellement connu Christ. Ils ont goûté à des choses, ils ont embrassé, ils ont approché, on pourrait dire, quelque chose, mais ils n'ont pas vraiment connu Christ. Lorsque Jésus parle, par exemple, de l'apostasie, hein, il dit que dans les derniers temps, en Matthieu, il dit que les faux docteurs, le diable fera des prodiges, ils feront des prodiges tels que s'il était possible, hein, il séduirait les élus. D'accord. Mais il dit s'il était possible. D'accord. Donc cela souligne que ces élus, il les garde, hein, et que l'enfant de Dieu, il est préservé par Dieu lui-même. Et que forcément ceux qui se détournent sont ceux qui se détournent de manière radicale et quasi définitive, hein, sont ceux qui n'ont pas été attachés à Christ. L'apôtre Jean le dit, je crois aussi, il dit qu'il parle de gens qui sont sortis de nous, il dit. D'accord? Mais ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il dit, parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Donc, voilà, il y a cette réalité qui est importante à souligner. Néanmoins, l'apôtre Paul parle, et s'il le dit à Timothée, c'est que c'est important, il dit, il y a une réalité à prendre en compte, c'est que, dans les derniers temps, des hommes se détourneront de la foi pour s'attacher au mensonge, à autre chose. Donc il souligne cette réalité de l'apostasie. Deuxièmement, on pourrait se poser la question, quelle est la nature ici de l'apostasie? Vous ai fait remarquer tout à l'heure qu'il ne dit pas simplement qu'il se détourne de la foi, point, mais il se détourne de la foi pour s'attacher à quelque chose d'autre. On se détourne, on va toujours vers quelque chose. Hein. Il n'y a pas de zone neutre ici. On est soit attaché à la vérité, soit attaché à l'erreur. Alors, ce qu'il souligne, regardez ici au verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il dit, quelle est la source, on pourrait dire ici, il décrit la source de l'apostasie. C'est des esprits séducteurs et des doctrines de démons. La puissance qui agit dans l'apostasie, c'est les esprits démoniaques. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce ne sont pas simplement des hommes, des faux docteurs, ici. Il décrit ici que derrière tout cela, il y a une puissance qui agit. Il y a une inspiration. Et c'est une inspiration démoniaque, ici. Et donc, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, c'est invisible, on ne peut pas le toucher, mais c'est bien réel. Il y a une puissance démoniaque, des démons, des esprits mauvais, des esprits séducteurs, sous l'égide de Satan, qui agissent à travers d'autres pour détourner de la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, rappelez-vous, quand il demande de prendre les armes, de revêtir toutes les armes de Dieu, qu'est-ce qu'il dit avant cela? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres physiques que l'on voit ici, un faux prophète. On lutte pas en réalité contre le faux prophète, hein. On peut pas l'attraper. On lutte contre ce qui influence le faux prophète. Il dit donc, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, il dit, il y a une inspiration qui pousse les gens, à, les faux prophètes, à agir comme ils agissent. Et c'est vraiment des esprits séducteurs. Et il faut savoir cela. Il dit cela à Timothée, il dit cela à l'église d'Éphèse, il dit cela aussi à nous maintenant. Derrière l'erreur qui est enseignée, il y a les puissances démoniaques au service de celui qui est appelé, bien sûr, le père du mensonge, selon Jean 8, verset 44. Ce sont donc des esprits séducteurs. Le mot parfois séducteur est traduit par imposteur. Rappelez-vous lorsque les pharisiens disent à Pilate de faire garder le tombeau de Jésus, et ils disent parce que il a dit qu'il va ressusciter, on a peur que les disciples prennent son corps et le volent et puis disent qu'il est ressuscité, ce qui serait une imposture plus grande que ce qu'il a annoncé. Donc c'est un peu la même chose ici, hein. C'est-à-dire c'est une séduction. Donc il dit que ce que le diable utilise, c'est la séduction, la tromperie pour attirer les hommes dans son piège. Et dans le jardin d'Éden, on voit très bien que c'est la séduction qui a eu lieu. Et partout dans l'Écriture, vous pouvez, où il est question du diable et la manière avec laquelle il agit, il est question de séduction. Et Ève même, quand Dieu va la voir et puis lui dit « Pourquoi as-tu mangé de ce fruit ?» Qu'est-ce qu'elle répond? Rappelez-vous, elle dit, voilà, exactement, elle dit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Elle parle tout de suite de la séduction. Okay. Et plusieurs autres passages soulignent que cette ruse du diable dans la séduction qu'il use pour tromper les gens. Rappelez-vous, on avait, je pense que dans ce même livre, hein, quand on avait fait au chapitre 2, on avait parlé de la femme. Il me semble qu'il était question aussi, voilà, au chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Paul dit « Adam n'a pas été séduit ». Mais la femme, cite, s'est rendue coupable de transgression. C'est vraiment l'arme que le diable utilise, la séduction. Et c'est ce que Jésus souligne, hein, dans le passage que j'évoquais tout à l'heure, quand il parle de la fin des temps et comment la fin des temps sera marquée, il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, dans Matthieu 24, 24. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, voyez, s'il était possible, même les élus. D'accord? C'est-à-dire, il montre que le niveau, j'ai envie de dire, de perfectionnement des prodiges, ce serait à un point tel que, s'il avait été possible, même les élus seraient dupés par cela, ici, hein, seraient séduits par cela. Mais la manière avec laquelle Jésus dit la chose montre qu'il garde ses enfants, hein, d'accord? Qui accusera les élus de Dieu, hein? L'apôtre Paul dit dans Romains, donc il garde ses enfants, ceux qui sont à lui, il les garde, il les protège. Donc ici, esprit séducteur et doctrine de démons. Bien sûr, ça veut pas dire que ce sont, ça veut simplement dire plutôt que c'est des doctrines, ce sont des vérités qui viennent de puissances démoniaques, hein, tout simplement, qui s'attachent à des doctrines de démons inspirées par le diable et par ses démons. Donc, lorsque les gens agissent, ce ne sont pas des choses neutres qui se passent. Lorsque les gens se révoltent contre Dieu ou des mensonges sont avancés, etc., faut pas croire que bon, ce sont des hommes qui disent les choses, ils savent pas ce qu'ils disent, etc. Il y a derrière une puissance qui agit. Il y a déjà une puissance qui agit, et qui est la puissance du mensonge pour renverser la vérité de Dieu, n'est-ce pas? Donc il faut être conscient de cela. Quand on entend des choses même voilà qui sont dites dans notre société, ou qui sont votées, etc., qui sont contraires à la part de Dieu, il y a une puissance qui agit derrière. Il y a une séduction qui est utilisée derrière. Et Paul dit cela à Timothée parce qu'il dit même dans l'Église, cette séduction peut exister. D'ailleurs, s'il dit que quelques-uns abandonneront la foi, c'est bien parce que c'est dans l'Église que cela se passe. Et rappelez-vous, Paul avait rencontré les anciens de Milet lorsqu'il remontait à Jérusalem, et vers la fin, avant d'être pris et puis ensuite amené à Rome, et il avait rencontré les anciens de l'église d'Éphèse, en Actes chapitre 20, et il les avait avertis qu'il s'élèvera du milieu d'eux-mêmes, d'accord, des faux docteurs, hein, des gens qui enseigneront des choses corrompues, du sein même de l'Assemblée. Donc il est important de considérer cela et d'être attentif, hein, à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Alors, on a vu ici dans cette nature de l'apostasie, la source spirituelle de l'apostasie, hein, c'est vraiment les démons, le diable qui est derrière tout cela. On a vu ici, voilà, qu'il agit par séduction, avec des doctrines bien précises, que l'apôtre Paul appelle ici des doctrines de démons. Hein, et puis, il a des instruments humains, ici. Et les instruments humains, ce sont les faux docteur, regardez comment l'apôtre Paul écrit, il dit, je reprends le verset 1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Comment ? « Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. » Donc le diable et ses démons sont invisibles. Mais ils influencent des faux docteurs qui, eux, sont bien visibles. On les entend, on les voit, on peut les toucher, ceux-là. D'accord. Donc, donc, ce sont les instruments qui sont utilisés pour véhiculer la doctrine des démons, toucher les gens dans leurs pensées, d'accord, les faire adhérer et les faire se détourner de la vérité de l'évangile, de détourner de la foi. Et donc c'est par ceux qui abandonnent la foi, on pourrait dire ceux qui abandonnent la foi le sont par ces personnes qui sont les faux docteurs qui sont eux-mêmes influencés par le diable ici. Les faux docteurs, là le mot le faux docteur c'est intéressant parce que c'est pseudo-logos. C'est facile? Pseudo-logos. Pseudo-science. Qu'est-ce qu'une pseudo-science, par exemple? Le mot pseudo, ça veut dire... Le mot pseudo est un mot... Alors, j'ai trouvé dans un dictionnaire, il dit que le mot pseudo signifie mensonge et est utilisé comme un préfixe afin de caractériser la seconde partie du mot comme fausse. Pseudo-science, ça veut dire des sciences qui ne sont pas de vraies sciences, fausses. Et le mot pseudo-logos vient de deux mots ici, le mot qui est traduit par faux docteur, ici c'est pseudo et lego, donc pseudo qui est faux, mensonge, et puis lego qui veut dire ou parler. Donc on pourrait, c'est ceux qui parlent faussement, ceux qui professent le mensonge. Donc quand il est question de faux docteur ici, c'est des gens qui professent le mensonge, c'est le sens même du mot. Ici. Et par exemple, la seconde 21 traduit ce verset comme cela, il dit « Car ils sont égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Okay » Traduit par faux docteur, mais des menteurs. Et donc, ce sont des gens qui véhiculent ce que le diable est. Il est le père du mensonge. Et donc, ce qu'il véhicule, c'est le mensonge. Et Paul dit « Ils sont hypocrites ». Alors, pourquoi ils sont hypocrites ? C'est-à-dire qu'ils montrent une chose... Et puis, dans le fond, ils sont autre chose. Ils sont dans l'église, ils vont parler avec tout le monde, prêcher, d'accord, dire des choses, etc. Mais dans le fond, leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Ils sont des émissaires même du diable. C'est terrible ça quand même, hein, comme chose, mais ça fait un peu froid dans le dos, je trouve. Mais c'est la réalité à laquelle Paul appelle Timothée ici. Donc l'Écriture parle souvent de faux docteurs qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Hein. On n'a pas le temps de lire tous ces passages, mais Colossiens 2, 23, par exemple, ou 2 Timothée 3, 5, nous parle de cela. Et donc ça veut dire, je le disais tout à l'heure, que ces hommes peuvent être des pasteurs, des théologiens, des écrivains théologiques, des gens qui professent connaître Jésus-Christ, mais qui en réalité trompent simplement les autres et jouent un double jeu. Peut-être parfois inconsciemment, mais bien souvent consciemment. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Et ce sont des personnes donc qui, comme l'apôtre, comme Jude le dit, des personnes qui se glissent, il dit ça, dans les assemblées. Il dit, Jude 4 dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et le quand il dit qu'ils se sont glissés, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés sans qu'on s'en aperçoive. Ils sont rentrés de côté. Ça, le mot veut dire subrepticement, de manière extrêmement subtile, en faisant de grands sourires et comme un serpent, et en ne laissant rien apparaître. Ils rentrent pas avec leurs gros sabots. Moi, je suis un faux docteur. Jamais, hein. C'est vraiment sans que on s'en aperçoive. Ils s'installent, ils ont le temps, on leur confie des choses, et puis finalement, un beau jour, on se rend compte qu'ils ont détourné des gens. Ça arrive, hein. On peut rester longtemps, et puis ensuite, on commence à distiller le poison de l'erreur. Et il faut être extrêmement attentif à ça. Et dans notre assemblée, c'est déjà arrivé que des gens viennent, suivent un peu, et puis tout doucement, distillent un petit peu de doctrine erronée. Il faut connaître la parole de Dieu, on va l'avoir tout à l'heure, il faut connaître la parole de Dieu, mais il faut être attentif pour réagir vraiment à cela. Si l'apôtre Paul le dit, c'est parce qu'il veut que Timothée réagisse. Il lui dit au verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il s'attend à ce qu'il réagisse ici. Et donc, voilà, ce sont des personnes, je le disais, qui se faufilent très habilement et dont l'erreur parfois est difficile à déceler parce que elle est souvent proche de la vérité. Hein? L'erreur, c'est 90% de vérité et puis un petit peu de saupoudrage de ce qui est faux. Mais ça fait de l'erreur. Ça fait comme de l'erreur. Rappelez-vous ce que lors du concile de Jérusalem, dans Actes chapitre 15, il est dit, si vous ne vous faites circoncire selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Oui, l'évangile de la grâce, mais avec la circoncision. Un tout petit peu de circoncision. Et c'est un faux évangile. L'apôtre Paul s'insurge contre cela parce que c'est un faux évangile. On ne peut rien ajouter à l'évangile. Donc, ce qui rend difficile parfois, c'est que l'erreur est très proche de la vérité. Et Tozer disait ceci, il dit que, en parlant de cet aspect de l'apostasie, il dit « L'erreur est si douée pour imiter la vérité qu'on les confond constamment. Il faut regarder attentivement ces jours-ci pour voir qui est Caïn et qui est Abel. » Ah, c'est bien dit ça, je trouve. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément une grande différence, mais dans le fond, il y a une grosse différence, mais dans l'apparence extérieure, il n'y a pas forcément une grande différence. Et il faut être donc vigilant contre cela. Et puis il dit que ils ont leur conscience marquée au fer rouge ou bien et ils ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. Il dit que leur conscience est souillée. Elle ne joue plus de ces faux docteurs-là ne joue plus le rôle qu'elle doit jouer. Peut-être qu'au début ils étaient un peu gênés, mais là ils sont arrivés à un point où leur conscience ne les condamne même plus parce qu'ils ont pris l'habitude de leur faire de la faire taire ici. Il est donc cautérisé, on pourrait dire. Et quand on lit l'épître de Paul, cet épître-là, on voit combien Paul associe la foi et la bonne conscience aussi. C'est intéressant de voir ça, parce que là, il parle de gens qui se détournent de la foi, et puis il parle de ces faux docteurs qui ont une conscience qui n'est pas pure. Mais par exemple, au chapitre 1, verset 5, quand il parle à Timothée, il dit « Le but de cette recommandation... c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Une bonne conscience et une foi sincère. Chapitre 1, versets 18 à 19, il dit « La recommandation que je te fais, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Encore. Et puis, rappelez-vous quand il parlait des diacres, au chapitre 3, juste à côté, et au verset 8, il dit « Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » Encore une fois, la conscience et puis la foi. Et donc, avoir cette bonne conscience, pouvoir se présenter devant Dieu avec cette bonne conscience, c'est quelque chose qui montre qui est important, qui est lié à la saine doctrine, à la foi. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a une bonne conscience qu'on est juste devant Dieu. L'apôtre Paul lui-même, il le dit, hein, il dit « Ma conscience » en 1 Corinthiens 4:4, « Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » C'est bien que notre conscience ne nous reproche rien, mais ça n'est pas suffisant pour être juste devant Dieu. C'est Dieu qui juge toutes choses. Je peux avoir l'impression que j'ai rien à me reprocher, alors que j'ai des choses à me reprocher. Okay? Mais néanmoins, il souligne ici que les faux docteurs, eux, ils n'ont pas une conscience tranquille, ils n'ont pas une conscience claire, ils n'ont pas une conscience pure. Elle est cautérisée, leur conscience. Elle est souillée. Elle ne joue plus du tout son rôle. Donc ils sont sans frein. Et donc, ils n'ont aucun scrupule pour agir comme ils agissent au sein même de l'Assemblée, au sein même de l'Église, ici. Et puis, bon, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que l'on prie aussi, mais on pourra voir la prochaine fois quelles sont les prescriptions de l'apostasie. Il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Bon, on verra ça la prochaine fois. Donc, je voulais juste peut-être dire ceci en conclusion. On voit quand même qu'il y a un danger que court l'Église à cause de l'apostasie et de la présence de fausses doctrines et de faux docteurs ici. L'apôtre Paul écrit en 2 Timothée 2, verset 16, je vous lis, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Et il dit, « De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité. » C'est-à-dire, ce sont des gens qui avaient pris l'habitude de discuter sur des choses folles, etc. Toujours des discussions sur ceci, sur cela, des petits points théologiques, etc. Et puis finalement, ça finit par installer de l'erreur. Il dit, ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Paul dit, évite donc les discours vains et profanes. Bataille d'opinion sur des points particuliers, des choses comme ça, où on a son dada et puis on est tout le temps là-dessus. Il dit, attention à cela. Hyménée et Philète sont de ce genre-là. Ils ont commencé à dire, non, mais la résurrection, c'est peut-être un truc spirituel. Non, moi, je crois plutôt que, etc., etc. Et puis finalement, ils y croient tellement qu'ils commencent à partager ça aux autres. Moi, tu es résurrection spirituelle ou résurrection corporelle, toi? Vous voyez, on peut prendre beaucoup de choses comme ça. Et puis, ça commence à disséminer des choses dans l'Assemblée. Et puis, on voit que, eux-mêmes se détournent de la vérité. Et puis, ça fragilise aussi la foi des autres. Ça la renverse. Ici. Deuxièmement, on voit dans ce passage qu'il faut vraiment pour nous saisir l'importance et l'enjeu de la vérité. Chers frères et sœurs, Paul avait dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Les chrétiens doivent saisir l'importance de la vérité, de sa connaissance. Il n'est pas toujours utile d'étudier à fond l'erreur. On pense que pour connaître l'erreur, il faut l'étudier. On n'a pas besoin d'étudier forcément l'erreur. Mais il y a une chose qui est indispensable, c'est d'approfondir la connaissance de la vérité. On est garanti contre l'erreur en connaissant la vérité. On n'est pas garanti contre l'erreur en connaissant l'erreur. Pas du tout. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi il va nous affranchir? De l'erreur, du mensonge, de ce qui est faux. La connaissance de la vérité nous rend libres par rapport au reste. Donc l'effort que nous avons à faire n'est pas un effort pour comprendre, connaître les fausses doctrines, mais un effort pour la vérité, pour connaître profondément la parole de Dieu. Cela suppose que l'on aime cette parole, que l'on cherche à la mémoriser, à la retenir. Alors, on ne sait pas comment les choses vont évoluer dans quelques années. C'est possible qu'on ait une persécution. Il faut connaître la parole de Dieu. Si nos Bibles disparaissaient, qu'est-ce qui nous resterait dans notre cœur comme connaissance de la parole de Dieu? Il faut que nous fassions des efforts dans ce sens-là. Il faut apprendre les vérités fondamentales de l'Écriture. Le catéchisme, c'est important, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour avoir quelque chose à apprendre en plus le dimanche, c'est parce qu'il est important pour nous d'asseoir des vérités bibliques dans notre pensée. Si on ne les a pas assis, on pourra pas lutter. C'est impossible de lutter si on ne connaît pas la vérité. C'est impossible. C'est impossible. Et il faut s'exposer donc systématiquement à l'enseignement de l'Écriture, que ce soit dans les réunions de culte, d'études bibliques, mais aussi dans les réunions particulières, les réunions de dames ou de frères ou de jeunes, etc. Ce sont des réunions partout où on a la possibilité d'exposer la vérité. Il faut être, imbibé de la vérité, sans quoi on est en danger. Donc s'exposer systématiquement à la vérité. Et puis aussi, troisièmement, je voudrais dire qu'il faut prier pour le discernement et la sagesse. On a besoin d'apprendre à discerner ce qui n'est pas la parole de Dieu. Bien sûr, il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir discerner ce qui n'est pas la parole de Dieu. Les anciens ont une grande responsabilité dans la connaissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, dans Tite, je vais vous lire, ne cherchez pas, mais Tite, ici, il dit, je reviens presque sur le point d'avant, mais il dit ici, 1:9, il dit, il parle de l'ancien, verset 7, il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, etc. Il dit plusieurs choses, et puis au verset 9, il dit, il faut qu'il soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, donc la parole apostolique, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est important. Ça veut dire qu'on ne réfute pas des contradicteurs par notre opinion. Moi, je pense que c'est pas juste ça. Enfin, je pense plutôt que... Non. On réfute par l'attachement à la parole qui a été enseignée. Ce qui suppose qu'on la connaît, qu'on la comprend, et voilà. Et donc, il faut prier pour que vos anciens étudient la parole, c'est leur responsabilité, et qu'ils la prennent, et qu'ils prennent l'enseignement de la parole au sérieux, la connaissance de la parole au sérieux, parce que la vie de l'Église aussi en dépend. Et Paul dit très clairement, il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. C'est clair, hein? Il dit, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Mais si on ne sait pas quelle est la vérité, on ne peut pas savoir ce qu'ils enseignent l'erreur. Okay? Donc il faut que chacun ici, nous avons une responsabilité, les anciens, mais nous tous, de connaître cette vérité, la parole de Dieu, de s'y exposer, de la lire à la maison, de l'étudier, d'avoir de bons livres, de bonnes choses qui nous permettent de progresser dans cette connaissance de la vérité. Et puis je disais, donc je reviens, agir dans la prière pour le discernement et la sagesse. Il faut être vigilant. Ne pas oublier que le diable est un lion rugissant qui cherche non pas à caresser mais à dévorer. D'accord ? Il ne va pas vous passer dans la... Il va dévorer. Quand il peut dévorer... Il dévore de la manière la plus subtile qui soit. Il passe inaperçu. Il est maître dans l'art de la dissimulation. Ce que l'apôtre Paul dit, il dit aux Corinthiens. Il dit, j'ai pas noté ce passage, mais dans 2 Corinthiens 11, il dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses apôtres se déguisent en apôtres de Christ. Vous imaginez? Et donc, c'est très important de demander au Seigneur le discernement, d'autant plus, qu'on est dans un temps où on a un supermarché spirituel avec le net. Hein. On peut cliquer où on veut, on peut se choisir son prédicateur préféré, on peut se choisir ses messages préférés, son thème préféré, dans le lieu préféré, à l'instant préféré. D'accord. On peut faire tout ça. Et c'est extrêmement dangereux, parce que quand on le fait sans connaître véritablement la parole de Dieu, on s'expose à l'erreur. On s'expose à l'erreur. Je ne dis pas qu'il ne faille pas écouter des messages. Je ne dis pas qu'il ne faille pas acheter des livres, lire des livres. C'est pas ce que je dis. Je dis que quand on le fait, en supposant simplement que l'on connaisse la vérité, on est en danger. D'accord? Et comment Dieu a prévu que nous connaissions la vérité? Il nous a placés dans un corps qui est l'Église. Et c'est dans une relation que Dieu veut que l'on apprenne la vérité. D'accord? L'apôtre Paul dit ici donne ici les diacres et les anciens, et il leur donne les responsabilités qu'ils ont. L'Église, donc, a une responsabilité, les membres d'Église ont une responsabilité que Dieu leur donne dans leur propre Église. C'est là qu'ils reçoivent, en tant que corps collectif, l'enseignement de la parole de Dieu. J'ai vu parfois des personnes qui se sont exposées à de faux enseignements et qui sont revenues avec quelque chose que l'Église n'enseigne pas et qui ont pris cela pour la vérité. Et après, pour le faire sortir de la pensée, c'était compliqué, hein. C'est compliqué. Il faut montrer avec la Bible, voilà ce que la Bible dit, etc. Vous voyez, tout cela parce qu'on s'expose, on pense que l'on connaît et on écoute. Ah, puis j'aime bien ce prédicateur, j'aime bien celui-ci, j'aime bien celui-là, j'aime bien ce livre, j'aime bien... Oui, mais est-ce que je connais la parole de Dieu? Pour écouter, il faut connaître. Il faut connaître. Et pour connaître, je crois que Dieu nous a placés quelque part où on est dans une relation, on peut interagir, on peut dire pourquoi ça, je comprends pas ça, etc. C'est comme ça que Dieu a prévu et on peut grandir. On peut grandir ainsi. Donc, c'est important d'avoir du discernement, de prier pour ce discernement et beaucoup de sagesse, chers frères et sœurs. Je m'arrête là. Que le Seigneur nous aide à saisir cela. L'apostasie est une réalité devant laquelle l'Écriture nous met. Et il est important pour nous de connaître vraiment la vérité de la parole de Dieu, de nous y attacher fermement pour échapper aux griffes de celui qui cherche à nous tromper. Que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce.